Bienvenue à bord du vaisseau Hyper Sans Sas.
Bonjour à tous et bienvenue dans Cinexplore. Tous les derniers mercredis du mois, je vous propose de passer de l'autre côté de l'écran avec moi et de m'accompagner dans mes rencontres avec les professionnels qui font l'industrie du cinéma, de près ou de loin. Ils peuvent être directrices de cinémathèque, passionnées, travailler au financement des films, festivaliers, scénaristes ou même youtubeurs cinéma. Ils sont quoi qu'il en soit des actrices de cette industrie et ont forcément des choses à raconter. Et ça tombe bien parce que moi, j'ai envie de les écouter toutes ces choses. Aujourd'hui, un épisode un peu différent puisque je dédie ma promesse et vais aller parler avec un jeune réalisateur. Il s'appelle Lucas Bacle et on va discuter ensemble de cinéma, de cinéphilie, de l'importance d'écrire, de l'aspect bien souvent politique du cinéma, que ce soit dans sa production ou bien dans sa diffusion. Une discussion qui change des autres entretiens que j'ai eus où on partait souvent dans la profession de mon invité pour digresser sur d'autres choses et j'espère que cela vous plaira. Cet entretien a été enregistré le 25 novembre à Paris chez Lucas qui a eu la gentillesse de m'accueillir. Bonjour Lucas, en tout merci beaucoup de m'accorder un peu de ton temps. Ma première question est souvent la même, je demande à mes invités ce que représente pour eux leur profession. Alors je vais te demander, c'est quoi pour toi un réalisateur, puisque tu es jeune réalisateur ?
Bonjour, alors du coup j'ai un peu deux réponses différentes parce que il y a à la fois comment moi je me vois en tant que réalisateur et ce qui m'intéresse là-dedans. Ouais. Et ce qu'on m'a appris qui était un réalisateur. Je dirais que ce que j'ai pu comprendre de ce métier-là avant de le faire moi-même, c'était il y avait quand même une notion de dans ma tête assez musicale, en sens quasiment de créer une composition. Ouais. Avec des histoires de vie. En fait, okay. C'est créer une musique avec de la vie. Okay. Et en ce sens, un peu à partir d'un récit. Parce que du coup, là je sépare auteur et réalisateur pour l'instant, parce qu'après on en parlera. Ouais. Le réalisateur va mettre en scène, créer une musicalité des corps, des sensations, des décors, à partir du récit. Okay. Et moi, c'est vraiment comme ça que je vois un peu ce travail-là. Et après ça, il y a ce que moi, j'aspire en tant que réalisateur et ce qui m'intéresse dans ce métier-là, moi c'est plutôt la logique d'amener un spectateur dans une expérience. Mmh. Et ça, je pense que ça vient un peu de... à la base, je suis architecte. Ouais. Donc j'ai tout un passé qui est finalement assez plus proche des arts de l'art contemporain et plus proche du conceptuel. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse pas mal, c'est de plonger un spectateur dans une expérience sans forcément être suivre des arcanes dramaturgiques parfaites. Voilà, c'est plus ce cinéma un peu expérientiel qui m'attire. Okay. plutôt que le cinéma de super accessible ou le cinéma voilà de récits.
Ok, d'accord. En France, on a une culture cinématographique qui a été très marquée par le mouvement de la Nouvelle Vague. Ce mouvement a notamment mis sur le devant de la scène la figure du réalisateur comme auteur à part entière. Quel est ton point de vue sur la question, donc, comme tu disais ?
Sur le côté auteur, moi j'ai une expérience assez particulière avec ça. C'est que je me suis mis depuis très récemment à me rendre compte que je ne pouvais pas laisser... des gens écrire ce que j'allais raconter. Ouais. J'ai eu besoin de reprendre le contrôle un peu sur le récit. Moi qui finalement, depuis l'architecture, en fait, on ne répond qu'à des commandes. Ouais. On met son art au service de quelqu'un d'autre. Après, j'étais chef déco, ou pareil, je travaillais pour une vision. Et après, j'ai commencé à faire des petites réalisations de clips. Mais pareil, j'étais au service d'un univers de quelqu'un d'autre. Ouais. Après, j'ai fait aussi des pubs. Et enfin, j'ai pu faire des courts-métrages où là, j'étais dans une totale liberté. J'ai vu qu'il y avait ici toute une sorte de visée politique à ne pas laisser pervertir un idéal ou une vision du monde. Ouais. Par un récit que je ne maîtrisais pas. Ouais. Et du coup voilà, ça fait 2 ans là, maintenant je me suis mis depuis le début du confinement en fait j'ai profité de ce temps-là pour pour aller à fond dans l'écriture et pour apprendre ça, moi qui n'étais pas littéraire à la base. Donc moi je suis un formaliste, vraiment j'ai appris à créer des univers, à dessiner, à maîtriser une direction artistique. Mais l'aspect littéraire de l'auteur, pour moi, était un truc assez lointain. Donc j'ai dû mettre les mains dedans. J'ai évidemment eu ce travail de un peu parcellaire de lecture des Save the Cat, de tous ces trucs-là, évidemment. Des, voilà, des, ne serait-ce que pour voir un peu ce que ça voulait dire et pour puiser là-dedans et pour aussi assumer que... pour aussi en toute modestie me dire ok bon bah il y a des gens qui en pensaient depuis des millénaires à tout ça, c'est peut-être qu'il y a peut-être une raison et, ouais. Et effectivement il y en a et du coup moi j'ai découvert de manière assez assez naïve que une histoire était régie par des lois comparables à la gravité pour un bâtiment.
D'accord.
Pour faire tenir un bâtiment, on pense à la loi de la gravité, c'est ouais. qu'il faut tenir des poutres et petit à petit créer toute une architecture qui se tienne.
Ouais.
Et bien finalement, un scénario est régi par des mêmes structures mm-hmm. qui, si elles ne tiennent pas, en fait, le récit ne tient pas. Quoi. Et il y a tout jusqu'au fignolage des derniers morceaux du récit. Et du coup, je me suis rendu compte que voilà, qu'un récit nécessitait une forme de structure
ouais.
qui évidemment peut être modulée, modifiée, brisée. On peut jouer avec. C'est tout l'intérêt d'ailleurs. C'est la structure peut être un objet artistique.
Ouais.
Et il y a aussi le problème des gens qui appliquent scolairement la recette sans réfléchir. Ouais, pour moi, c'est ça l'écueil. Chaque choix doit être pensé. Que si on peut pas se dire, moi, j'applique bêtement cette structure parce que j'ai pas d'autre idée.
Ouais.
Ça doit être un choix.
Ouais.
Alors, après, donc, c'était peut-être un petit hors sujet par rapport à ta question.
Non, mais c'est très intéressant au contraire.
Voilà, donc c'est un peu ma manière à moi d'être arrivé à ce travail d'auteur. Et du coup, c'est vrai que je venant d'un monde qui n'était pas du tout lié au cinéma, finalement, moi, je suis assez peu érudit, en fait,
Comment tu passes de l'architecture, ça c'est intéressant, comment tu passes de l'architecture au cinéma, qu'est-ce qui te fait dire je vais faire ça maintenant?
En fait, je me suis jamais dit je vais faire ça. C'est un truc qui est... J'ai tendance à dire qu'il y a le cerveau du haut et le cerveau du bas. Et le cerveau du haut qui contrôle pragmatiquement mes actions et le cerveau du bas qui est l'instinct et qui me fait... Et j'ai pendant toutes mes études d'archi, je faisais mes projets d'archi à fond avec le cerveau du haut et je faisais de la vidéo avec le cerveau du bas. C'est-à-dire que je passais mon temps, dès que j'avais une après-midi, j'allais filmer un truc avec un copain, j'apprenais en faisant.
Ouais.
Et je m'étais rassuré en disant que je faisais des études professionnelles. En parallèle de ça, tout ce que je faisais, c'était des courts-métrages, de filmer des trucs, enfin, un bout de documentaire là. Et donc je l'ai fait intuitivement et je vais être de manière ultra empirique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit, tu vas pouvoir faire du cinéma.
Ouais.
C'était pas du tout ça, c'était genre je vais faire un film, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et en fait le désir de cinéaste il est arrivé finalement tardivement, au moment où je me suis dit bon bah l'étape d'après c'est faire un vrai film en fait.
Ouais.
Arrêter de juste faire des... Là je suis en train de préparer mon premier court-métrage produit que je tourne en avril,
ouais.
Qui est écrit tout ça et qui est en train d'avoir de... On a pas mal de financement pour le tourner. Et donc c'est un peu la première pierre de cet édifice que j'ai commencé à construire depuis 5 ans, là, depuis ouais. que j'ai basculé d'archi à la vidéo, à la ouais. base, et maintenant vers le cinéma. Mais après, pour terminer sur l'aspect auteur lié à la nouvelle vague, tout ça, c'est vrai que moi j'ai découvert encore une fois assez tardivement mm-hmm. que l'exception française était ce tandem auteur-réalisateur. Je trouve ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je trouve ça assez essentiel en fait, c'est que pareil, pour la maîtrise d'un propos, c'est assez politique en fait de permettre à des gens d'aller au bout de leur idée.
Bien sûr.
Et en fait, c'est aussi tout le débat entre l'artisan ou l'artiste.
Ouais.
Qu'on soit auteur, réalisateur ou je sais pas, ou peintre, on a toujours la posture d'être ou l'artisan ou l'artiste. Mmh. L'artisan, c'est celui qui va finalement répondre à une commande. Mmh. On peut être auteur et répondre à une commande d'adaptation, on peut être réalisateur et répondre à une commande de faire un, je sais pas, de prendre un scénario et d'en faire un film. Et il me semble que l'artisan, c'est celui qui va exceller techniquement dans une tâche jusqu'à, on pourrait dire, tendre vers une forme d'art. Mmh. Je pense qu'on peut aussi être artiste avec un travail de commande,
ouais.
mais ça implique de vraiment tordre
ouais.
et détourner. S'approprier. Et ça, je pense que faut pas être sage, quoi. C'est juste, faut jamais être sage et faut jamais essayer d'être l'artisan qui répond scolairement à l'objet qu'on lui tend. Il faut le tordre, se l'approprier pour ne pas être perverti par un univers qui n'est pas
ouais,
le sien, quoi.
Je vois. Ouais. quelle est ton actualité du coup? Qu'est-ce qui se passe là? Quel a été ton parcours jusqu'à présent? Et là maintenant, donc, tu nous parlais d'un court-métrage, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes expériences passées et comment ça t'a amené à faire ça aujourd'hui?
Alors le premier pivot que moi qui m'a amené à passer d'archi à réalisateur, c'est j'ai gagné un appel à projet à Bordeaux il y a 5 ans maintenant. C'était dans le cadre d'une biennale artistique liée à l'architecture, qui s'appelait Agora à Bordeaux. Mmh. Et on a eu, avec un copain, on a proposé un projet qui était de transformer une rame de tram, enfin un tramway en salle de cinéma mobile, dans laquelle on avait prévu de réaliser une vingtaine de courts-métrages sur 20 lieux de Bordeaux. Ouais. Avec comme contrainte, on a écrit un scénario à partir d'un lieu. L'idée, c'était, le projet s'appelait Voix urbaine, ouais. Les chroniques d'une ville par ses habitants. Donc c'était toute une histoire. On voulait essayer de partir de rumeurs urbaines et les rendre vivantes, quoi. Ouais, ouais. Et donc on a gagné l'appel à projet, on a eu pas mal d'argent pour le faire, ouais. Et la mairie de Bordeaux nous a suivi complètement. On a réalisé à peu près 20 courts-métrages, dont 5 sont vraiment pas mal, parce qu'on a fait ça avec rien, non, et en 6 mois.
20 courts-métrages, c'est
oui, non, mais c'est vraiment plus...
5, c'est déjà vachement
bien. Oui, mais moi, en plus, j'avais complètement zélire de « vas-y, on y va à fond, on va faire 20 films et tout, n'importe quoi ». Bref, mais au final, ça a été ma petite école de cinéma, c'est que j'ai pu tester 20 façon de réaliser, 20 façons de penser des trucs. J'ai fait un film d'animation, j'ai bossé avec des copains qui ont co-réalisé. Enfin, on a fait toute une sorte de projet qui pour moi a été une vraie expérience, mm-hmm. qui m'a permis de me dire, de me sentir à l'aise avec ça, et qui était un pont entre le monde duquel je venais, à savoir l'architecture, et le monde dans lequel je suis maintenant, la réalisation. Et donc ce projet m'a vraiment permis de faire la bascule. Après ça, j'ai rejoint et j'ai cofondé une sorte de collectif de réal à Bordeaux, mmh. qui est maintenant devenu une boîte de production qui s'appelle Saint-Gingembre.
D'accord.
Et récemment, à peu près au milieu du Covid, j'ai décidé d'aller aussi voguer de mes propres ailes. Enfin, donc je suis toujours très proche de ce collectif-là, mais j'en suis sorti pour pouvoir être réalisateur aussi tout seul.
Ouais.
Du coup, dans ce cadre-là, je suis venu monter à Paris pour rencontrer d'autres boîtes de production, des boîtes de production d'une autre ampleur aussi, mmh. puisque j'avais envie de travailler avec d'autres types de gens, des gens peut-être un peu plus expérimentés que moi, mmh. qu'on l'était avec mes amis avec qui on avait monté ce collectif. Mais en parallèle de ça, avec dans les tuyaux un court-métrage qui est produit par la boîte de production que j'ai cofondée avec mes amis. Okay. Et du coup, ce court-métrage-là, qui serait tourné en avril, qui part d'une histoire de copain.
Okay.
Qui parle d'une histoire de copain. C'est qu'en fait, pendant mes études d'archi, et avant la jonction à la réalisation, j'étais auxiliaire de vie pour un copain à moi, handicapé.
D'accord.
Enfin, je sais pas que j'étais auxiliaire de vie, c'est que j'avais un pote en fauteuil roulant, et à un moment donné, j'avais besoin d'argent, et il me dit, tiens, tu peux venir une semaine par mois, et je te filerai à peu près, ça fera tant d'argent par mois, quoi. Je fais, vas-y, trop bien. Et un autre pote à moi fait la même chose.
Ouais.
Ce sera le comédien principal du film.
Okay.
Et un autre pote à moi fait la même chose. C'est le producteur du film.
D'accord.
Donc en fait, c'est une sorte de. On a tous les trois été les auxiliaires de vie de la même personne.
Ouais.
Qui est notre ami. Du coup, tous les quatre, on a une belle histoire d'amitié. Et en fait, le jour où j'ai eu à choisir d'arrêter de faire les nuits, comme on appelle ce que c'est, on fait les nuits avec Louis, cette personne, mmh. pour vraiment me consacrer à la réalisation, j'ai eu tout un moment de battement où j'arrivais pas à lui dire, parce que j'avais l'impression que je me sentais coupable d'un peu de l'abandonner, ou quand, ouais. en tout cas ou qu'il a l'impression que j'étais là juste pour l'argent. Donc il y avait un truc où l'amitié, le professionnel s'était mélangé dans un truc un peu étrange. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à lui dire, alors que je savais que j'allais devoir partir, ouais. pour un tournage. Oui. Et du coup, j'ai reculé ce moment jusqu'à un peu une semaine avant. donc il y a pas mal de lâcheté là-dedans qui m'intéresse. Et ce film parle de ça. Alors, en gros, le court-métrage, c'est l'histoire de deux potes. Ça raconte une nuit. C'est la nuit où l'auxiliaire de vie va devoir apprendre à son pote qu'il doit se barrer le lendemain,
ouais.
pour aller taffer en tant que chef cuisinier sur un paquebot
Okay.
Un paquebot étoilé, quoi. Mais du coup, c'est une comédie dramatique parce qu'il y a vraiment une histoire, une amitié assez fusionnelle entre deux potes.
Ouais.
Mais voilà, l'auxiliaire va trahir son ami en fauteuil roulant. Voilà, donc au travers d'une nuit où le sommeil fait qu'on voit les choses, enfin le manque, oui, de sommeil fait qu'on voit les choses différemment.
Ouais.
Voilà, donc ça raconte cette nuit-là, un film assez assez sincère, assez pur et très drôle. Je pense que le comédien principal, qui est Laurent Targé, va apporter beaucoup de son humour à ce rôle.
Tu parlais tout à l'heure du fait que tu es monté à Paris pour peut-être communiquer ou être en contact avec des boîtes de prod peut-être d'une autre ampleur, c'est ce que tu disais. Comment tu le vis, ça, toi? C'est un secret pour personne dans le podcast que je produis le podcast à Bordeaux. Je parle avec beaucoup d'acteurs locaux. Là, les interviews, les auditeurs vont s'en apercevoir. Il y a énormément de gens de la région, si ce n'est de la ville. Je crois fermement au pouvoir de la province sur le pouvoir parisien. Je pense qu'il est temps que la province prennent un peu aussi les armes et réussissent à mettre en place des choses. Voilà, moi, je suis un fervent défenseur de ça. Qu'est-ce que toi, t'en penses, sans aucune obligation, évidemment, parce que je réalise en me présentant comme ça que ça peut être un peu intimidant ou je sais pas, ou qu'on va pas oser. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est ton point de vue. Comment toi, tu le vis? Est-ce que pour toi, c'est une fatalité de devoir monter à Paris? Est-ce qu'au contraire, c'est un plaisir? Est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité de développement en province? C'est quoi ton opinion là-dessus?
Mon opinion là-dessus, c'est que moi, je crois que on peut faire tout ce qu'on veut de partout. Que si on a un bon scénario, un bon projet à développer, en fait, surtout maintenant où tout le monde est en télétravail, on s'en contrefout. On peut être à Bordeaux, on peut être à Lyon, à Strasbourg, on s'en fout. Néanmoins, moi, dans ce que je voulais faire maintenant, tout de suite, là, c'était travailler avec des boîtes de prod plutôt sur des projets courts, c'est-à-dire des projets de commande type clip ou ouais, clip vidéo ou publicité.
Bien sûr.
Et en fait, l'immense majorité des boîtes de prod là-dessus sont à Paris. Donc moi, je me suis dit, j'ai fait un peu mon tour à Bordeaux des boîtes de prod avec qui je bosse, notamment parce que j'ai cofondé et je bosse avec celle qui marche le mieux, enfin en tout cas qui fait des projets qui me plaisent le plus. Du coup, je me dis, j'ai pas tellement d'autres choix pour avancer, en tout cas dans cette partie-là de ma carrière, que d'aller à Paris.
Ouais.
Au moins pour un temps, ne serait-ce que pour 2-3 ans, pour rencontrer des bonnes personnes, pour être représenté à droite à gauche. Et peut-être que ce sera plus, j'en sais rien, mais en tout cas, je me suis dit ça, j'ai un peu pété les plombs fin juin, où je me suis dit que je me suis vu dans 20 ans, à la même place, au même endroit, avec les mêmes gens, faire le même truc. Je me suis dit, mais en fait, comment je fais pour avancer, quoi?
Ouais.
Et j'ai senti que j'avais besoin de m'arracher un peu de ma sécurité, ouais, et de mon confort, ouais, pour aller un peu à poil, comme un cow-boy, me retrouver comme un étudiant, alors que j'ai 33 balais.
Ouais.
je crois que j'avais envie de me mettre un peu en insécurité, pour me pousser encore plus à travailler et bosser avec des gens qui sont encore plus exigeants que moi.
Ouais, ouais.
Après, pour ce qui est de la fiction, sachant que je suis je sors de l'œuf à peine, genre je vais réaliser mon premier film produit, mon premier court-métrage produit dans quelques mois. Là-dessus, j'ai l'impression que sur la fiction, ça pose pas un problème d'être n'importe où, en fait.
Ouais.
Ce qui compte, c'est d'avoir un bon projet, un bon scénario. Ouais. Après, on peut conquérir n'importe quoi.
Oui, puis tu peux toujours venir démarcher les gens ici, puis ensuite, oui, repartir chez toi, tourner chez toi, là où t'es à l'aise, là où l'histoire le réclame.
Bien sûr, parce que là c'est pas en étant à Paris que je vais... Enfin, j'écrirai pas un meilleur scénario dans ma chambre à Paris que dans ma chambre à Bordeaux. Ouais, le scénario sera... ça dépend pas de ça.
Ouais.
Par contre, c'est vrai qu'on peut peut-être trouver une émulation un peu plus favorable de gens qui font la même chose que moi. Et
c'est la grande force.
Mais en même temps, comme je te dis, avec cette team Saint-Jean, on a passé tellement de temps à refaire le monde, à s'inventer comment on y allait y arriver, que l'émulation était là, en fait.
Ouais.
Moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir ce collectif, cette force de commune qui s'est un peu transformé à partir du moment où le collectif est devenu plutôt une boîte de production qui s'est plus structurée, quoi.
Ouais.
Où on était moins freestyle et artiste, quoi.
Ouais, c'est vrai. J'imagine du coup qu'en tant que réalisateur, tu dois te nourrir de pas mal de films, enfin, je pense. De quoi elle est faite ta cinéphilie aujourd'hui? Comment tu te l'es bâtie? Et puis, on en parlait tout à l'heure hors interview, on parlait de la capacité qu'on a aujourd'hui à voir des films à peu près sur n'importe quel support, sans entrer dans le débat sale, pas sale. Qu'est-ce que tu dirais qui est aujourd'hui primordial dans cette cinéphilie pour toi?
Moi, j'ai un peu construit ma cinéphilie un peu de façon étrange, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'aimais des films que d'autres gens n'aimaient pas. Enfin, en tout cas, que les gens n'aimaient pas dans mon entourage. Parce que j'avais pas du tout un entourage de cinéphile. Du coup, je me suis rendu compte que j'ai découvert les films de Nicolas Winding Refn et que tout le monde autour de moi détestait, trouvait ça imblairable. Et moi, j'adorais, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que j'aime ça? Qu'est-ce qui fait que Valhalla Rising m'a pris autre trip dans cet univers étrange, long et lent? Enfin, voilà, ça m'a créé un truc. Ça m'a bouleversé dans mon fort intérieur. Du coup, vu que j'ai jamais eu de modèle de gens qui brillaient par leur érudition, de dire, tiens, et que j'ai un peu appris par des petites, voilà, Peter Watkins, où j'ai découvert ce travail politique, avec Punishment Park, ce genre de films qui m'ont dit, tiens, on peut flinguer tous les codes comme ça, on peut filmer une armée napoléonienne en caméra épaule, comme si on était en plein milieu de la fin. On a le droit de s'amuser, en fait, de critiquer, ça me plaisait. C'est plus des espèces de petits morceaux qui m'apparaissaient comme ça.
Oui, c'est-à-dire que tu avais personne qui venait et qui te disait tu devrais regarder ça.
Non, 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 vraiment. Pour le coup, je te dis, je crois que je suis pas du tout issu d'une famille. Enfin, mon grand-père est peintre, la peinture que tu vois ici, c'est de lui, mais il n'y a pas forcément une culture artistique très développée, quoi. On parle pas forcément constamment d'art, ou même si c'est des gens très intelligents, c'est pas forcément des érudits artistiques. Et du coup, c'est vrai que moi, ma culture, c'est fait plutôt via le prisme de l'architecture.
Ouais.
Et du coup, je me suis intéressé vachement aussi à tout un volet un peu scandinave, de cinéastes scandinaves, de Ruben Östlund, en passant par Roy Anderson, qui est en train de briller aux yeux du monde en ce moment, Ulrich Siddle, pareil, qui mélange la fiction et le documentaire, Winterberg, tous ces cinéastes scandinaves, je sais pas pourquoi, je pense que le côté archi ou attiré par le design scandinave, là on est assis sur des chaises scandinaves à l'heure qu'il est, il y a un truc là-dessus qui m'a une espèce de froideur et de maîtrise au cordeau.
Ouais. C'est étonnant quand on fait des explorations comme ça tout seul. Je suis un peu pareil dans ton cas, j'ai pas une famille cinéphile. Parce qu'on est un peu dans le même cas, toi et moi. Moi, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Et du coup, on rentre par certains prismes, par certaines portes comme ça. Et explorer le cinéma scandinave par la porte d'entrée de ce que je comprends être l'architecture scandinave, en fait, quoi. C'est intéressant, c'est très intéressant. Si tu devais.
Jacques Tati, hein, franchement, en école d'archi, on nous montre ces films-là en nous disant, l'espace et le corps, quoi.
Ouais.
Et moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, de travailler sur ces profondeurs-là, ces jeux de corps et d'espace.
Ouais, forcément.
Alors après, je serais cliché si je disais tous les trucs en ce moment, de Dupieux à Noé, à tout ça, voilà. Je vais même pas les citer parce que c'est des trucs qui me restent au fond de la tête et parce qu'ils s'autorisent.
Ouais.
C'est pas tant leur film, plus que le fait qu'ils s'autorisent à faire certains gestes qui m'animent. Et c'est aussi pour ça que je me verrais pas être un réalisateur de... Je dirais que si on devait faire une frise avec à gauche l'art contemporain, à droite le cinéma grand public,
ouais.
je serais sur le tiers le plus proche de art contemporain. Créer des dispositifs et des endroits où on décale un peu le réalisme m'attire beaucoup, et alors que là je suis en train d'écrire un film qui est pour le coup ultra réaliste. Alors,
ouais,
je dis ça, mais en même temps
c'est très
paradoxal.
Je vois ce que tu veux dire, et puis là c'est ton premier court métrage, donc ouais. Tu vas avoir le temps d'explorer tout ça et d'écrire des choses,
espérons-le.
En tout cas, je croise les doigts, je l'espère pour toi, c'est sûr. Là on va parler d'autre chose quelque chose qui me tient à cœur. J'en parle souvent avec les gens que j'interview. On parle en ce moment, mais on parle toujours, en fait, j'ai la sensation, de crise du cinéma. Alors moi, ce qui m'intéresse, d'abord, bon, ton point de vue, bien entendu, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment le point de vue de la personne qui aspire à faire des films et qui aspire à montrer ses films. Voilà, moi, j'ai un point de vue, on en a discuté hors interview, en off, comme on dit. Et voilà, mon point de vue, il est assez clair. J'ai beaucoup de mal avec le discours, je dirais, classique, qui veut nous expliquer qu'un film, c'est en salle ou sinon, c'est pas un film. Mais ce que je veux vraiment avoir, c'est pas tellement ça. Ce que je voudrais avoir, c'est ta vision des choses à toi en tant que réalisateur. C'est-à-dire qu'en tant que personne qui crée une œuvre audiovisuelle, pour qu'elle soit vue, quand même, j'imagine que c'est une des priorités. Comment toi tu envisages ça? Comment tu le vis? Comment tu vis ce débat-là? Est-ce que ça t'intéresse déjà? Et si oui, comment tu te positionnes? Si tant est que tu aies une position, on n'est pas obligé d'avoir une position sur tout.
Hein. Là, je pense qu'il y a un peu deux facettes à ça. La première, c'est la facette politique qui. Alors, en fait, le truc arrivant tardivement dans ce monde-là, c'est vrai que j'ai pas le décodeur de l'ensemble du système. Donc ouais. J'apprends progressivement et du coup je suis assez peu légitime pour m'exprimer politiquement sur ces. Enfin, je me sens assez peu légitime. Par contre, je sais qu'il y a un enjeu politique très important de aller en salle, c'est en France le moyen de refinancer des films. C'est une action politique pour permettre à des nouveaux talents d'émerger, pour permettre de soutenir le cinéma français et pour éviter d'être uniquement dans des films qui ne s'adresseraient qu'à qui des films vendables quoi, mais d'aller s'autoriser à créer des films qui sont des purs objets artistiques, parfois peu accessibles. Donc je trouve que ça, c'est évidemment cette boucle. Alors ça, c'est, il me semble, uniquement en France. C'est notre système français, ouais. Mais cette boucle est assez essentielle, et effectivement sans la salle, a priori c'est la merde, ça ne fonctionne pas. Donc il me semble que politiquement en France, ça, c'est déjà là-dessus que c'est essentiel. Après, pour moi, évidemment, c'est tellement dur de passer son temps à taffer seul sur son petit ordinateur, en salle de montage, etc., que putain, pour une fois qu'on a moyen d'être face à d'être quasiment face à un public, de pouvoir avoir tout un tas de gens, de revenir à l'idée du spectacle, comme on peut le vivre des metteurs en scène quand ils produisent un spectacle et qu'il y a de la vie, que les gens applaudissent, et qu'il n'y a pas juste un nombre de vues sur une chaîne YouTube ou un nombre de vues sur un compteur Netflix. Il y a quelque chose de revenir à la vie, quoi, de revenir à l'émotion qui me fait très envie.
Et ton film, par exemple, à ton court-métrage, quel type de sortie il aura, ça, je sais pas, peut-être que tu sais pas toi non plus, ou peut-être que si, d'ailleurs.
Moi, ce qui est sûr, c'est qu'il aura une sortie en salle où j'inviterai le maximum de gens que je peux inviter pour pouvoir pour célébrer ce projet d'amis, quoi, projet collectif où on a tous un peu mis notre âme dedans, et je trouve ça hyper beau, en fait. Donc c'est pas l'idée, n'est pas de me célébrer, c'est de célébrer l'objet qu'on a fait tous ensemble. Ouais.
Mais si par exemple demain on venait te voir en tant que jeune réalisateur après la sortie de ce court-métrage en disant on a trouvé ça vachement bien, on va financer votre projet qui sortira sur, pour ne citer qu'elle puisque c'est la plateforme reine aujourd'hui, on sortira sur Netflix par exemple ou sur Prime Video, comment tu te positionnerais toi par rapport à ça? Est-ce que tu dirais mais moi je veux qu'il y ait une sortie en salle, ou est-ce que tu dirais je m'en fous qu'il y ait une sortie en salle, ou est-ce que tu vois, c'est ce débat là qui me... C'est difficile.
Non, mais instinctivement, je dirais, en fait, malheureusement, je dirais que je m'en fous.
Ouais.
Je dirais que ce qui m'importe, c'est que l'objet existe, et que moi, je trouverais toujours des manières de le faire, ne serait-ce que de faire des projections. Mais j'ai pas tellement de blocage par rapport à ça. Pour ça, c'est pour ça que je te dis que ma méconnaissance du système un petit peu global fait que je suis un peu limité dans ma réponse. C'est que j'imagine que si je l'étais plus, rien que politiquement, je dirais bah non, c'est essentiel. C'est un engagement auprès d'un public, etc. Là, j'avoue mon manque de connaissances qui me fait réagir instinctivement comme voilà le quidam quoi. Donc je dirais non, moi j'ai envie que ça existe, et que si quelqu'un m'accompagne pour financer ce projet-là, que ce soit une plateforme ou quoi que ce soit, je m'en fiche un peu. Après, ouais, si c'est Amazon, ça me fait super chier. Mais en même temps, à l'heure actuelle, on est tellement petit que je sais pas. Mais c'est tout le débat entre de se dire est-ce qu'il faut vendre son âme au diable pour réussir à s'exprimer, ou il faut s'exprimer en ne vendant jamais sur un âme au diable et en galérant, mais le jour où tu y arrives, tu y arrives vraiment. Enfin, le jour où tu y arrives, tu l'as mérité, quoi. Ouais. Et que si tu te bats pour ta sortie en salle et que tu refuses tous les financements d'autres de ces majors, je sais pas, il y a quand même quelque chose d'une, un genre de conquête, quoi. Un genre de combat et qui est beau.
Finalement, la salle, on s'aperçoit, c'est politique, quoi, quand même.
Bah ouais.
Très politique.
Ouais, ouais, c'est très politique. Après, évidemment, c'est juste, on vit tellement dans nos petites bulles et nos petits ordinateurs que, pour une fois qu'on a les moyens de créer une expérience collective, c'est tellement con de passer à côté, quoi. Mais je dois dire que, comme toi, j'ai construit ma cinéphilie tout seul sur mon ordinateur en regardant des films. Enfin, la majorité des films qui m'ont inspiré, ils n'étaient plus en salle. Ils, ouais. ils étaient en VOD, quoi.
Bah, c'est ça ce qui me dérange dans ce discours-là. C'est, quand ouais, donc, que, c'est la salle, oui, d'accord. Mais
vraiment, va trouver des films de Peter Watkins en salle aujourd'hui, là. impossible.
S'ils y sont, on ira les voir avec plaisir. Hein,
voilà, et puis c'est juste qu'il faut aussi trouver des plateformes intelligentes, quoi. Il y a Tank, il y a Mubi. Sur Tank, il y a des films incroyables. Enfin, il y a des vraies équipes éditoriales qui travaillent pour aller dénicher les perles. Enfin, je pense que ça m'arrivera pas forcément de me faire accompagner par des plateformes comme Amazon, des trucs comme ça. Mais bon.
Oui, mais on sait jamais. Où est-ce qu'on peut te suivre et suivre ton travail?
On peut suivre mon travail bah, via les réseaux sociaux. Hein, ouais. Tout simplement, j'ai un compte Instagram, Lucas Bacle, ouais. Lucas.bacle. Et sinon j'ai un petit site web
ouais.
lucabac.com,
très bien.
Voilà, et globalement oui, c'est, j'ai pas de médias que je développe en parallèle.
Non, mais donc c'est très bien que les gens puissent regarder si ça les intéresse, s'ils veulent en découvrir plus, ils peuvent aller sur ton compte Instagram ou sur ton site internet. Et puis ben, merci beaucoup de m'avoir reçu en plus chez toi à Paris. Franchement, c'est très intéressant de discuter. Enfin, moi, je suis toujours enchanté de discuter de cinéma, évidemment. Et bah, je te souhaite vraiment tout le meilleur, quoi, tout ce que tu désires, en tout cas au niveau professionnel et personnel aussi, d'ailleurs. Et puis, bah, quand ça sortira, n'hésite pas à nous faire savoir pour ton court-métrage, parce que je le communiquerai aux auditeurs. Et puis, bah, voilà, écoute, merci vraiment beaucoup du temps que tu nous as accordé. Et puis, bah, j'espère à très bientôt.
Merci.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez 5 étoiles sur les plateformes qui le permettent et parlez-en autour de vous, c'est la meilleure manière de faire connaître le podcast. Cinexplore est un dérivé de Cinécure, un podcast créé et réalisé par moi, Charles-Edouard Wasselin, et produit par Adrien Larousé, mon talentueux et patient compère pour Vaisseau Hypersensas, dont je remercie tous les membres pour leur patience et leur bienveillance. N'oubliez pas que sur le Discord du Vaisseau, vous trouverez un channel Cinécure où nous discutons de tout ce qui est abordé dans le podcast et bien plus encore. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cinexplore. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao !